Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Bonsoir à tous, chers amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Minuit et demi, horaire inhabituel, vous savez, il y a l'Euro en ce moment, l'after dure un petit peu plus longtemps, mais ça ne nous empêche pas d'être très heureux de vous retrouver avec Moundir, qui lui est en direct depuis Vegas. Salut Moundir.
Salut mon Daniel, et oui, je suis en direct, pour une fois je ne suis pas avec toi, désolé de te faire des infidélités, mais en tout cas ici... Tout se passe bien.
Bah, tu m'étonnes que tout se passe bien et très franchement, moi je m'en fous que tu me fasses des infidélités si c'est pour obtenir des résultats. C'est fantastique, à peine débarqué, immédiatement, une très belle place dont tu vas nous parler dans un instant. Un petit gain aussi, t'es passé à 5 chiffres, ça y est?
Bah oui, 5 chiffres, mais j'aurais préféré le bracelet, mais je vais t'expliquer.
Oui, bah, merci Moundir, évidemment, ça, on préfère toujours plus. Ah, ouais. Eh oui, tu veux toujours plus, du plus, évidemment. du plus. Il va tomber le bracelet, tu viens à peine d'arriver.
Bah, c'est toi qui a créé ce slogan. Quand il y a 5 chiffres, il faut un 6 chiffres. C'est toi qui disais ça, non? Bon.
Le programme en studio avec nous à Paris, Nicolas Dumont. Salut Nicolas.
Génial. Bonjour, bonjour Daniel, bonjour Moundia.
Nicolas Dumont qui n'est pas à Vegas et qui n'ira pas cette année. Ça ne l'empêche pas d'avoir obtenu de magnifiques résultats dans sa carrière et notamment vainqueur d'un EPT à Monaco en 2018, ah
oui.
Nico.
Oui, c'était il y a un moment.
Un moment, mais peut-être, mais c'est un résultat qui ne s'effacera jamais.
Effectivement. Ça fait toujours plaisir de s'en souvenir.
Tu nous raconteras dans un instant ce que tu fais en ce moment et pourquoi tu ne vas pas à Vegas cette année. On va recevoir dans une poignée de secondes Moundir Eli Nakache. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le croiser.
Bien évidemment.
Lui, il a le bracelet. Ça y est, il l'a fait tomber. Vainqueur de l'event 66. C'était un pote limite Omar. Un 10 000 de buy-in et il a pris un petit peu plus d'un million. Je pense que c'est une très très belle somme.
Bah, disons que tu peux voir large, comme on dit dans le vêtement.
Et tu crois qu'il peut claquer un outlet en entier comme toi ou moins?
Ah bah, je pense qu'il peut même réserver carrément une journée entière, un peu comme tu fais à Disney avec Mina, tu vois. Mais c'est vrai que ce qui était top, c'est qu'on était dans la même salle, donc dans la salle du Horse. Ouais. Et il y avait la table finale, bien évidemment, du Omaha. Il y avait aussi celle du Senior où, justement, Kulchen a fait, je crois, sixième.
Oui, il a fait sixième. Très belle performance aussi pour Bruno Lopez. Ouais.
Et moi, à ce moment-là, j'étais à 50 left, justement, à 50 left du 2005. Donc c'était génial. Il y avait une ambiance terrible. Et c'était top parce qu'il y avait un contingent français qui était là et ça faisait une bonne ambiance, vraiment.
Fausto sera avec nous également ce soir. Lui, il est à Vegas, c'est un journaliste et comme la semaine dernière, oui. Il nous parlera un petit peu de toute l'actualité. Il y a eu des super résultats. J'ai vu notamment dans le Millionaire Maker cette main pendant le tournoi a été gagnée par un Argentin, Franco Spital. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, cette main du heads-up. Tu l'as vu, Nicolas? Tu as vu cette main, le As-10 contre la paire de deux?
Ah oui, j'ai vu.
Breland 2 et l'autre il termine
et
par un
Argentin qui appelle Messi.
Avec tous les Argentins et toi, là. Mais quelle folie.
Ouais, ils sont bénis, hein, qu'est-ce que tu veux?
Moundir, je te souhaite une fin de tournoi comme ça parce que je pense que toi, au niveau de la joie et tout, je sais pas si on pourra t'arrêter en fait.
Mais je la démonte la table, moi, si j'ai un truc comme ça. Je te refais la peinture du Paris, je te change la moquette, mais c'est exceptionnel. Mais je pense qu'ici, les émotions sont exceptionnelles.
Tu m'étonnes. Et je sais pas si tu te souviens, Moundir, récemment, on a parlé d'un numéro de Live Poker où il était question du comeback des vieux.
Oui.
Michel Legborin ne nous en voudra pas de le mettre dans cette catégorie. Il a une telle expérience, il joue depuis plus de 40 ans. Mais il a également fait un super résultat, lui, à Vegas, runner-up.
La plus belle émotion.
De l'event, enfin, alors c'était un tournoi un peu particulier, le low ball draw.
Just 2-7.
Ouais, voilà. Exactement.
Just 2-7. Oui. C'est la variante la plus fun, à part.
La plus fun, mais c'est pas ça.
En dehors du No Limit, quoi.
Absolument.
Bah, vous nous raconterez pourquoi elle est fun.
Avec plaisir.
Voilà. Très bien.
Je crois qu'on va s'ennuyer, Daniel. Toi et moi.
Voilà pour le programme. L'actu, évidemment, plein de choses. Et c'est le moment, eh bien, écoute, d'accueillir un nouveau champion du monde français. C'est parti, Marseillaise.
Le jour de gloire est passé.
Elina Cash.
Bonjour.
Elina, est-ce que tu nous entends?
Oui, moi je vous entends, vous m'entendez?
Bravo, bravo, bravo pour cette très très belle performance. Le bracelet est au coffre?
Je ne l'ai pas encore. Ils me le remettront à la remise lundi. Donc demain à 12h15 dans la salle du Paris avec une Marseillaise et tout.
Ah mais donc on a anticipé la Marseillaise, dis donc. Nico, vous connaissez, non?
Oui, je connais Eli. Alors j'ai essayé de me souvenir que depuis combien de temps on se connaissait, ça fait très longtemps.
Ouais.
Et c'est toujours un plaisir de le croiser et je suis très content pour lui. C'est vraiment magnifique.
Eli, tu es toujours Marseillais? Parce qu'on parlait de Marseillaise.
Toujours Marseillais, oui.
Ouais. Alors raconte-nous un petit peu cette belle performance sur une variante, hein, donc.
Oui, sur une variante. Bon, c'est la plus connue de toutes les variantes. Donc,
ouais. Ouais.
C'est pas non plus le Juice to Seven qu'on a parlé juste avant. c'était fou. Donc.
Le buy-in de ce tournoi c'était un 10 000 hein, quand même. Hein. Donc c'est sacré buy-in. Enfin, ça s'est pas donné à tout le monde de participer à ce genre de tournoi.
Oui, j'avais vendu des parts quand même. C'était pas.
J'imagine.
J'avais pas toute mon action dedans forcément, mais. Mais oui, c'était un kiff et ça s'est bien passé.
Ah, mais c'est surtout aussi que c'était le dical l'un des plus relevés en Omaha, quoi.
Il y a quand même pas mal de riposte quand même dedans. Donc, comme la variante en ce moment est en plein essor, ouais. Donc il y a quand même pas mal de récréatifs parce qu'il y a pas. On était peut-être 820. Je pense pas qu'il y ait 820 personnes qui soient des experts du format. Donc,
Toi, apparemment, tu étais plus spécialisé dans les expressos. L'OMA, c'est une variante que tu fréquentes depuis, enfin, il me semble pas si longtemps que ça, 2 ans. T'as vite basculé. C'est une variante qui t'a beaucoup intéressé, dans laquelle tu as voulu te perfectionner. Comment t'expliques qu'aussi vite t'as pu réussir à décrocher un tel résultat?
Déjà, beaucoup de chance. Faut être réaliste. Mais je sais pas, beaucoup de chance, beaucoup de travail. J'ai regardé énormément de contenu. Donc,
voilà. Je trouve ça super que tu nous dises, bien évidemment, qu'il y a beaucoup de chance, forcément, surtout au bas. Et qu'au-delà du travail, bien évidemment, Daniel, hein, que tu connais aussi, qu'il faut en passer des coups sur ton Oma, où il y a plus de joueurs rentrants, comme à la différence du Hold'em. Et que quand bien même ce que tu disais tout à l'heure, Eli, tu penses pas que il y avait 800 joueurs qui jouaient, mais je pense que les 800 joueurs, t'avais pas quand même des aficionados qui mettent 10K et qui viennent faire un hommage. Je pense qu'il y avait la majeure partie du contingent était quand même des joueurs bien aguerris, quoi. Et après, bien évidemment, il faut de la chance.
Mais en général, en Omaha, ça ne pardonne pas. Si on sait pas jouer les récréatifs, je pense qu'ils durent encore moins longtemps qu'en Hold'em, en Omaha, parce que si on commence à croire que, par exemple, une top pair, c'est très fort, ben, on se retrouve vite.
Une top pair, tu crois que c'est très fort? A priori, moi, je connais pas cette variante, j'en connais à peine les bases, mais je sais déjà que si tu crois ça, c'est que t'as rien à faire à la table, quand même. Hein.
Je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas grand-chose à faire à la table, mais c'est,
ah oui, carrément,
c'est ça, Vegas, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on aime venir ici.
Ah, t'imagines nous dire le mec qui est en Omaha pense que top pair t'es bien et il rentre dans un tournoi à 10 000 le buy-in. Genre là, ouais. Je veux bien que Vegas, il y ait de la folie à Vegas, mais enfin, là, c'est vraiment des tarés complets, quoi, pour faire ça.
Ouais, et puis surtout que cette année, il y a énormément de personnes, hein. Alors, il y a moins de queues, d'accord, parce que la logistique a fait qu'elle a vachement progressé, mais c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs, hein. Vraiment.
Dans tous les tournois et dans toutes les variantes. On disait que l'OMA était en plein développement. Nico, toi, tu y joues, toi, en
Non, très peu, très peu.
Comment on explique qu'il y a un essor dans cette variante? Une lassitude de certains joueurs pour le Hold'em, l'envie de voir autre chose. Qu'est-ce qui explique cet engouement?
Ça s'explique parce que les joueurs professionnels cherchent le bénéfice avant tout et ils ont remarqué qu'en nos limites, ça commence à se caper un petit peu parce que tout le monde a progressé et du coup, ils cherchent l'Eldorado un petit peu et ça se passe en PLO. Donc, que ce soit en cash ou en MTT. Et Eli a été très, très humble, mais je sais qu'il performait en spin et en expresso et qu'il avait beaucoup travaillé et qu'il a dû énormément travailler aussi en Omaha. Et voilà, et moi, il m'a impressionné parce que j'ai vu un petit peu l'ATF et au début, il y avait des joueurs aguerris et ils lui sont un peu rentrés dedans en lui disant « Ah, t'as joué cette main, c'est bizarre, pourquoi tu fais ça ?» hein, il s'est pas décontenancé.
Comme pour voir s'il était réellement un spécialiste ou il était pas un petit peu un touriste amélioré.
Ouais, et il s'est pas décontenancé, il est resté droit et dans son jeu et ça a souri pour lui.
Tu confirmes, Élie, qu'il y a eu de la part peut-être de joueurs plus aguerris que toi une volonté de te provoquer, de te faire un peu basculer ?
J'ai pas senti ça comme ça. C'était bon enfant. Moi, j'ai senti ça bon enfant, mais moi, en tout cas, j'étais arrivé avec mon plan de jeu, alors que qui était de vraiment attendre que les gens bustent. C'est ce qu'on doit faire en tournoi. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'il y en a qui étaient plus des joueurs de PLO, mais sans être des joueurs de tournoi, et qui ont plus voulu chercher la bagarre. J'ai vraiment eu cette impression avec le chip leader, par exemple. Alors que moi, mon plan, c'était vraiment garder les pots petits le plus longtemps possible pour justement essayer de gagner les paliers. Et une fois que... Parce qu'il y avait toujours un mec qui était vachement short. Donc moi, j'ai attendu, et j'ai réussi à passer les paliers. Et puis après, à heads up, il fallait plus attendre, et voilà.
Une petite technique du calculateur de l'épicier.
Ouais, c'est ça, non, mais... Après, c'était aussi des paliers à plus de 100K à chaque fois, donc...
Ah, plus de 100K les paliers, 100K, voilà, j'ouvre l'épicerie, je mets les bons produits hein, devant. Hein. Je vais à Rungis, je pense qu'il y a de mieux.
Hein. Pour ça, moi, ça me dérange pas.
Bon, ben voilà, Moundir, il t'a un peu montré la voie, Élie, avec ce bracelet. Il n'y a plus qu'à.
Ouais. Ouais, mais il n'y a plus qu'à surtout trouver 10K. Moi, je ne les ai pas. Attends, tu rigoles ou quoi?
Attends, tu peux prendre un bracelet sur un tournoi moins relevé, enfin, au buy-in en dessous. Bon, en tout cas, parle-nous un petit peu de toi. On va faire un focus sur ta performance. Quel tournoi, quand? Raconte-nous un petit peu quand même, parce que nous, on a suivi, mais les gens qui nous écoutent doivent savoir. Cette performance.
Ce qui est drôle dans cette histoire, bah oui, mon Daniel, c'est que je pars hein, le 27 du mois de juin.
Ouais, jeudi 27, c'était jeudi de cette semaine, quasiment avant-hier, ouais.
Exactement ça. Donc on arrive en faisant escale à Los Angeles, et l'avion a une heure de retard, ça me décale pratiquement à tout. J'arrive pratiquement à l'hôtel du Paris à 18h, donc il y a une forme de jet lag, si tu veux, que je commence à ressentir, mais que je n'ai pas envie de dormir, et je sens, quand j'arrive dans la salle du Paris, je croise Greg par hasard, voilà, et qui me dit, ben voilà, là il y a le tournoi, c'est le 2500, il y a Neymar qui est là et compagnie. Ah bon? Et je dis à ce moment-là, je dis, bon, écoute, je vais le faire.
Attends, va pas si vite. Tu arrives et il y a le 2500 qui venait de démarrer.
Exactement, qui a démarré, mais qui avait démarré à midi.
Et il était quelle heure, toi, quand t'es arrivé?
18h30, 19h.
Ah ouais, donc il y avait déjà un sacré, beaucoup de niveaux qui étaient passés.
Bah, d'abord, il y avait pratiquement 2180 joueurs, donc ce qui est énorme pour un 2500.
Et Neymar était dans ce tournoi-là?
Et Neymar était dans ce tournoi-là, qui avait déjà triplé son tapis.
Ouais.
D'accord? Il avait triplé son tapis, donc il était déjà pas mal. Bon, il a
bustapé. Tu t'es dit, je vais aller lui faire la peau pour venger Daniel.
Non, je me suis dit, je pense que c'est exactement. Bon, je pense que t'as pas eu besoin de moi, mais effectivement, non. J'aurais aimé l'avoir à table pour le jouer. Mais si tu veux, je trouvais que c'était une occasion pour moi de faire mon premier 2005, et je me suis dit, bah, j'ai la bankroll, je pense que les 2005 je peux les mettre, et je suis rentré avec 30 blindes, voilà. Donc 30 blindes, et à ce moment-là,
30 blindes, tournoi 2005, pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Nico?
C'est courageux.
Bah oui.
Mais je trouve que en vrai c'est pas si mal, parce que le premier jour, quand on arrive à Vegas, il faut essayer de dormir le plus tard possible, donc se lancer dans un tournoi, pourquoi pas, hein, ça nous mène au bout,
ouais,
de la nuit.
Et surtout, c'est que je ressentais des bonnes vibes. J'avais passé 15 jours à m'entraîner, bien évidemment, avec Flavien Guénan qui me coach. Donc, on avait vu pas mal de choses. Et je me suis senti bien. J'avais pas envie d'aller dans ma chambre. Je me suis dit, vas-y, on y va et on va voir ce que ça donne. Donc, j'arrive à une table où je reconnais absolument aucun top règle et tout ça. Je dis, bah, c'est génial. Et je double mon tapis à la troisième main.
Comment
et,
tu doubles? J'arrive. Raconte-nous. Bah,
je vais te raconter. UTG1 chez moi. Donc avec Roi Dame suité, j'open à 5000, c'est payé UTG2, tout le monde passe, donc je me retrouve en HU et le board ça fait As 10 valet, donc je flotte nuts avec deux cœurs, d'accord. Je flotte nuts
dans le Gontran, donc, je dis, à peine arrivé, Gontran, il est là.
Non, mais tu as pas commencé à noirceur, Daniel, la même noirceur quand même. Donc écoute, ouais. À ce moment-là, je lead tout de suite en faisant 10K, donc je fais cher. Le mec me colle, d'accord.
turn 2, 2 de pique. Je pousse à tapis, il me colle et il avait il avait as-suite de cœur. Donc il jouait pour tirage flush nuts et blanc de la rivière et là je double mon tapis donc je monte pratiquement à 90 balles et à ce moment-là ben tout se passe bien quoi. Donc après tout se passe bien et je finis
donc derrière t'es resté un peu en gestion sur pour finir le D1.
Non, j'ai pas mal agressé au bouton lorsque je suis passé à plus de 50 blindes et je suis monté à 300 000 parce qu'à un moment il y avait Kalilou qui était à ma gauche qui était venu donc ancien champion EPT et champion et donc à ce moment-là il y a deux coups que je joue extrêmement mal face à un récréatif américain un asiat si tu veux qui en mettait partout et l'erreur que je dois jamais faire c'est de jouer trois barrels bluff et de 300 je tombe à je crois à 90 et c'est à ce moment-là que ça devient un peu dur si tu veux c'est que je me retrouve sous la barre pratiquement des 10 bébés. Et même Kalilou me dit putain t'aurais pas dû déconner t'avais pas intérêt à trois barrer le bluff et compagnie et puis il avait raison et finalement je finis
le D1. Là tu regrettes là est-ce que c'est encore un point sur lequel tu dois progresser sur certains mecs qui t'énervent un petit peu que t'as envie de te faire parfois un peu.
Ouais, surtout que je lui fais trois barrer le bluff avec valet 10 suité alors que lui me colle avec l'as à la turn où il a as 7 off. Donc bon, c'est, si tu veux, je m'en veux parce que au pire, je dois juste mettre un bet sur le board et une fois qu'il me colle, je dois check oui, histoire de dire ok, ben je lâche le coup alors que j'ai pas voulu le lâcher, j'ai voulu mettre la pression alors qu'il y avait pas énormément de pression à mettre. Donc si tu veux, je tombe pratiquement en dessous de 10 blindes et à ce moment-là, on est pratiquement à 90 places dépayées. Donc de l'ITM. Donc j'arrive à survivre, je double mon tapis avec les as, donc c'est génial, où je suis payé avec as valet et à ce moment-là, on rentre dans l'argent et puis je passe le D1 avec 10 blindes, 107 000 et on reprend le lendemain pour te la faire courte. On retrouve le lendemain donc D2 au horse et à ce moment-là, première main, je défends avec roi et deux suités sur un open d'un américain qui fait à ce moment-là qui fait 20 000. Donc les blindes c'était 5-10 et moi je joue tricky donc je défends avec roi de cœur. Et en fait, le board, ça fait roi, as et 3 avec deux cœurs. Donc, je suis plutôt pas mal. L'américain me fait tapis. Donc, je le couvre uniquement de 3000. Je colle. Il avait as 7. Brique sur la turn. Et je fais le 9 de cœur sur la rivière qui me fait passer à 300 000. Et là, c'est génial parce que là, ensuite, je peux gratter pas mal de paliers. Et il y a énormément de sortants parce que ça buzz très 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 vite à ce moment-là. Ouais. Et je me retrouve pratiquement à 100 left où je change de table. Et là, je me retrouve vraiment avec des gros joueurs comme le joueur flamand Bert. Je pense que tu le connais, frérot. Donc ouais. Voilà, il y a lui, il y a aussi comment il s'appelle, Mustapha Kanit. Enfin là, tu te retrouves avec les 100 derniers joueurs où ça commence à titiller. Et puis je monte à 700 000. Donc je suis plutôt pas mal et à un moment je me fais goder avec As-6 contre As-Dame où ça fait As-Valet-7 et le mec me fait tapis pour 300 000, je le colle, il avait As-6, il frappe le 6 turn et donc là ensuite je suis card dead pendant à peu près 3 niveaux, ce qui est juste horrible, j'arrive à me tenir et on arrive, je change de table où je me retrouve à la gauche, j'ai Nacho, donc l'un des Argentins champions qui fait les tritons, voilà, donc pas mal de gros joueurs à la table et on arrive à 46 left et à ce moment-là je suis une grosse blinde, il me reste 7 bébés entre 8 et enfin ouais plutôt 8 bébés et il y a un écossais qui est un très très gros joueur je me souviens plus son prénom, un roux assez costaud qui open en faisant 80 000 parce que les blindes c'était 20-40 et j'étais de grosse blinde donc ça faisait 40 et 40 et d'où j'ouvre As-Valet, je tanque un peu, je chauffe et il me snap avec paire de 2 et Nacho me dit bon bonne chance et quand elle dévoile le board ça fait As Roi 4, d'accord.
Ah putain, à ce moment-là, tu dois être bien dans ta tête, tu dois dire allez, c'est bon.
Bah oui, bah parce qu'il y a un palier de 14 on monte à 17 quoi. Enfin, c'est génial. Ouais. Turn Roi Rivière 2.
Voilà. Oh. Et donc oh, là, je me lève au 46.
Sa mère le 2. Est-ce que t'as lâché un sa mère le 2?
Non. Honnêtement, en temps normal, j'aurais dévissé, toi, j'aurais sorti un petit peu la caisse à outils. Mais j'ai accepté. Voilà, il fallait accepter. Et puis bon, ouais, c'était dommage, quoi, parce qu'on était à la fois si proches, mais c'était encore assez loin. Mais ça a été, c'était génial, belle expérience. On va continuer à avancer dans ce
terrain-là. Bon, en tout cas, c'est bien. C'est une super perf. Et t'es encore là-bas pour quelques semaines.
Exactement.
Et pour faire mieux. On va marquer une première pause. On revient immédiatement. On sera évidemment toujours avec Nicolas Dumont en studio, Michel Legborin et Fausto depuis Vegas. À tout de suite.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
Deuxième partie du RMC Poker Show. Mundir est en direct de Vegas où il a lâché un très bon résultat. 14K à peu près, c'est ça Mundir?
Plutôt 15 s'il te plaît.
Plutôt 14, enfin, faut être précis. Je ne voulais pas te gratter. Non, mais ce qui dépassait du 14, je croyais que c'était mon pourcentage, c'est pour ça.
Eh, excuse-moi, ils ont voulu me prendre 30%. Heureusement que j'avais l'IT, hein, je te le dis. Hein. Parce que t'as pas papy, ils prenaient 30%.
Allez, à Vegas, pas loin de toi. Enfin, je sais pas où ils sont, s'ils sont loin de toi ou pas. Mais en tout cas, on retrouve Fausto, journaliste qui bosse pour Wina et qui couvre les WSOP. Salut Fausto.
Salut,
salut
Fausto.
Salut Daniel. Salut Mundir. Et salut
ça va
Nico. Ça va, salut, super, Fausto. Ouais, comme un dimanche à 8h du matin, pleine forme.
Eh oui, oui, un petit décalage. Allez les gars, faut se réveiller, il y a une longue journée. Bon Fausto, je te laisse libre parole pour que tu mettes en avant ce que tu as aimé de plus cette semaine. Est-ce que, évidemment, alors c'est marrant parce que depuis l'article dont je te parlais tout à l'heure, Mundir, là, sur le retour des vieux, on a eu Phil Ivey qui a claqué un bracelet, Michel Legborin en Europe, là, il sera avec nous dans un petit instant. Et on a eu Negreanu cette semaine.
Oui, Negreanu hein, qui a pleuré.
C'est dingue ça, Fausto.
Ah mais non, mais complètement. Moi, j'ai l'impression de revivre en fait un épisode de High Stakes Poker de 2005. En fait, moi, quand je découvre le poker, c'est avec toutes ces légendes là. Et là, on est 20 ans plus tard. Et en fait, t'as les mêmes têtes qui se retrouvent à performer et à être toujours autant dans la lumière, quoi. Donc, on a eu Ivy, on a eu Negreanu. Et Negreanu, c'est un peu un retour en grâce, hein, parce que ce mec-là, qui était quand même la tête d'affiche, une légende depuis des années, ça faisait 3 ans qu'il faisait des Vegas très compliqués. Il baillinait tous les plus gros tournois, les 250, les 100, les 50, et on le voyait très difficilement atteindre les tables finales. On le voyait tilter, il se faisait plus connaître en fait avec ses vlogs qu'avec ses performances. Et puis là, il revient sur le devant de la scène. Et sur quel tournoi? Sur le Poker Player Championship, qui est juste le tournoi le plus dur, le plus mythique, et où il faut montrer toute sa polyvalence au poker face aux meilleurs joueurs du monde. Donc il n'y avait pas meilleur tournoi pour Negreanu pour faire ce grand retour, et on pouvait sentir son émotion. C'était vraiment un exploit magnifique, quoi. Mais c'est vraiment dingue de voir que dans ce sport on peut avoir des joueurs d'une longévité pareille, et que bah, les légendes d'il y a 20 ans sont toujours au top aujourd'hui, quoi.
Victoire donc de Daniel Negreanu, 7e bracelet pour lui. Le gain, c'est un peu plus $1 million. C'était l'Even 58, 50 000 $ le buy-in quand même. 89 joueurs au départ, forcément vu le prix du buy-in. Et alors le plus fou dans ce tournoi, c'est quand on regarde le palmarès, David Benyamin était dans cette affaire-là. On parlait des vieux, des pionniers. David Benyamin qui s'incline à la 5e place. Phil Ivey 7e. Joe Vieira du Team Wina qui fait 9e, et donc Daniel Negreanu vainqueur. Ça t'inspire quoi, Nico, quand tu vois ce palmarès là dans ce tournoi?
Bah, ça fait rêver. Franchement, pour moi, c'est le deuxième plus beau tournoi à Vegas. C'est un tournoi mythique. C'est un des tournois qui me fait rêver. Donc, ouais, je l'ai regardé et je le regarde tous les ans. Et c'est sûr qu'un jour, ça donne envie d'y aller et de.
Mais est-ce que le fait qu'il y ait ces têtes d'affiche, que ce tournoi soit aussi important, on y voit des coups différents? On y voit des plus d'audace, plus de folie. Qu'est-ce qui change par rapport à un...
Là déjà c'est le 50K Player Championship, donc c'est des variantes. Il y a 8 jeux différents, au moins 8, peut-être 10.
Oui, c'est
même.
Chaque main ça tourne.
Ouais, voilà. Ouais. Et ils se connaissent tous en fait. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment un historique entre eux énorme, et du coup, j'avoue que rentrer dans ce petit cercle, ça doit être un peu bizarre.
Et tu vois des coups de légende quand même, parce qu'ils sont tous au top niveau. C'est-à-dire qu'il y a toutes les légendes qui jouent à ce jeu-là depuis 20 ans, qui ont parfois un ou deux bracelets dans chaque variante. Et face à eux, t'as des mecs qui jouent en cash game à des blindes absolument hallucinantes. On parle de 3000, 6000, 5000, 10000 ou plus au Bellagio tous les jours dans ces variantes-là. Donc en gros, c'est les légendes du jeu contre les plus gros top sharks de chaque variante. Donc en fait, on joue au maximum du niveau qui peut se jouer en deuce to seven, en triple draw, euros en stud. Donc oui, il y a des coûts hallucinants. Après, c'est vrai que c'est difficile à retranscrire pour ceux qui s'intéressent juste au No Limit Hold'em, parce que par un coup, t'as 7 cartes, un coup, t'en as 5, un coup, tu joues pour le high, pour le low. Enfin, c'est compliqué à suivre. Mais quand t'aimes bien les différentes variantes, c'est ultra ludique. Et pour le coup, là, ça joue à un top niveau. Et juste, tu parlais de Benjamin. C'est quand même incroyable ce qu'il fait, parce que, pareil, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu faire des performances sur les WSOP. Il s'alignait pas forcément d'ailleurs sur les tournois de plus haut gros buy-in ces dernières années. Et là, il fait bull TF du Big O, donc PLO à 5 cartes. Il fait 5e du Poker Player Championship. Il bust, il s'inscrit en dernière minute sur le $10,000 PLO. Genre vraiment, il doit rentrer, il doit avoir 20 blindes. Et il refait TF du 10K PLO dans la foulée, quoi, où il termine 8e, finalement une place assez frustrante. Mais David, il est sur un run de folie et il fait partie justement de ces légendes d'il y a 20 ans qui sont en train de tout déchirer sur ce festival. Et il faisait partie des 3 Français présents à Disney sur ce Pot Limit Omaha, qui nous a apporté des sensations énormes. Et donc David Benjamin fait assurément partie vraiment des têtes d'affiche du clan français cette saison.
Incroyable. Moundir, mission pour la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous, mais vous serez avec Jérémy à Vegas. Faites venir Benjamin. Il y a très longtemps qu'il n'est pas venu dans le RMC Poker Show. Je crois que la dernière fois, c'est dans les anciens locaux. Ça fait une vie qu'on n'entend plus parler de lui. Il faut absolument que David vienne dans le RMC Poker Show. C'est fou, là, ce qui se passe.
On va te le ramener, bien évidemment. C'est sûr.
Fausto, j'ai parlé tout à l'heure de la fin du millionnaire Maker, complètement dingue, avec la victoire de l'Argentin Franco Spital, avec cette main folle, As-10 contre la paire de 2. La paire de 2 fait brelant, le As-10 termine par un full sorti de nulle part, ambiance de folie avec les Argentins. T'y étais, non?
J'étais à côté, j'étais en train de bosser sur un autre article, mais c'était difficile de se concentrer. On entendait les Argentins qui gueulaient Messi, Messi, comme ça, en appelant des 10 ou à chaque fois que l'Argentin remportait une main. Et je pense qu'on a, on n'a pas vu depuis le WSOP, l'Event Center, autant en feu que pendant cette finale, quoi. Enfin, il devait y avoir 20 ou 30 personnes. Et au moment de la main finale, c'était n'importe quoi. Genre, ils ont commencé à balancer vraiment toutes les bières sur la scène. On était dans les travées d'un match de foot, un cop anglais, quoi, mais la version latino. Donc ouais, ils ont fait du bruit les Argentins.
Pour une main, parce que c'est la dernière main du tournoi, hein. Une dernière main de tournoi à ce point spectaculaire et folle, il y en a pas des tonnes. Nico, t'es d'accord, qu'il y ait des coups dans le, hein, mais que la dernière soit à ce point folle, c'est,
oui, parce que le déroulé du coup est assez standard, c'est limp, iso, tapis, paire de 2, ok, mais as 10, ok, c'est normal. Mais après, c'est vrai que première carte le 2, 1-10, As-As, c'est vrai que c'est incroyable.
Ah ouais, pour une main qui conclut le tournoi, j'ai trouvé ça complètement fou. J'ai dû la repasser pour croire ce que je voyais, quoi. C'était la folie. Il faut qu'on parle aussi de Kulchen, Bruno, qui fait 6e dans le tournoi senior, Fausto.
Ah ouais, franchement, c'était très très dur. J'avais décalé mon jour off justement pour assister à cette finale, en me disant mais on va assister à quelque chose d'incroyable, ça va être grand pour Kulchen, pour Winamax et pour tout le poker français. En fait, quand on le voit se présenter 2e/10 de cette finale, on se dit mais alors, en fait, s'il gagne, mais ça peut changer tellement de choses pour notre sport, tout le monde en parlera, tu te rends compte, MTM sur le toit du poker mondial, ce serait dingue. Et puis lui, voilà, c'est un pionnier du poker français aussi, quoi. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sur les tables, il est amoureux de ce jeu comme pas possible, ça aurait une signification tellement énorme. Et là, il tenait une chance unique, quoi. Et il était 2e/10 sur ce senior high roller où on se dit, bah en fait, là, il a un edge, quoi. S'il était sur un autre tournoi WSOP en table finale, il y aurait sûrement des gros requins autour, mais là, il y avait quelques mecs qui tenaient bien les cartes, hein, mais on se disait, mais Kulchen, il a largement l'expérience, il a largement la technique, c'était vraiment l'occasion en or, quoi, pour lui. En plus, ça faisait des quelques années qu'il essayait sur les seniors, tout le team Wina lui disait, mais c'est des tournois, ils sont vraiment taillés pour toi, c'est là où tu peux faire parler ton agression, etc. Donc, vraiment, toutes les planètes semblaient alignées et malheureusement ça a été une finale terrible, quoi. Il passe de 2e à dernier en même pas 20 minutes, quoi. Il perd 3 coups d'affilée et il se retrouve 6e/6. Et là, à ce moment-là, il les déplace en table télévisée. Il y a une pause d'une heure et demie pour s'aligner sur le streaming. Et puis il revient, il y a le rail qui commence à se mettre en place. On se dit, bon, allez, c'est pas fini. Et à peine les supporters arrivent qu'il est déjà éliminé, quoi. Donc, franchement, énorme déception. compétition pour tout
comment
le monde.
Comment il l'a vécu, lui, ce résultat qui, sur le papier, est très bon, mais oui, évidemment, il y a toujours la part de déception de ne pas être allé plus loin.
Ah bah là, l'amertume de la défaite avait l'air bien plus forte que le que bonheur le ou la fierté d'avoir atteint cette table finale WSOP. Et pour te dire, il nous a lâché un tout petit mot après la finale, juste pour essayer de commenter son dernier call. Il avait peur d'avoir spew, tu sentais qu'il avait peur d'avoir des regrets, tu vois, d'avoir un peu raté son occasion. Et en fait, il est parti très vite derrière. Tu sentais que voilà, il avait besoin de digérer ça un peu en solo. Et pour tout te dire, on doit le retrouver justement aujourd'hui pour faire un peu le débrief de cette finale, quoi. Et on va faire l'interview sur Winamax aujourd'hui. On n'a pas eu vraiment le temps et lui-même est parti assez vite. Et donc, je pense que c'était un peu dur à digérer pour Bruno cette finale, voilà, où il est passé un peu à côté.
Ouais, mais sacré résultat quand même. Et effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, Moundir, Nico, je sais pas ce que vous en pensez, le côté une personnalité, parce que Kulchen, c'est aussi ça, c'est vrai, une personnalité qui gagne un bracelet le champion du monde, la promotion, le coup de projecteur que ça aurait pu mettre sur le poker. Je sais pas, j'ai du mal à envisager, est-ce qu'on en aurait parlé
Ah oui,
bah, j'imagine que oui, mais je pense qu'on en a besoin, en fait.
Non, mais qu'on en ait besoin, assurément, mais je sais pas, est-ce qu'on en aurait parlé dans une émission d'actu
Je pense que Winamax aurait essayé de faire le maximum et ça aurait été une très bonne... bonne vitrine pour nous, quoi, pour nous les joueurs, surtout, pour le poker.
Surtout que ça aurait fait, si tu veux, ce qu'on appelle une aventure bis, comme a pu avoir Patrick Bruel lorsqu'il avait gagné un championnat du monde sur un side. Ça aurait fait le même effet avec bien évidemment Bruno.
Puis c'est quelqu'un d'ancien, s'il avait gagné, il aurait démonté à table, enfin il aurait montré ses émotions et ça aurait été
évidemment.
Génial, quoi.
La dernière fois qu'on a mis le poker justement au devant de la scène, c'était lorsqu'il fallait faire l'équipe de France, vous savez, le championnat du monde qu'ils avaient organisé, Monsieur Dreyfus, justement, à Malte.
Ah, ça n'avait pas été une énorme réussite quand même, cette histoire-là. Exactement. Ça a fait un flop, cette histoire, quand même. Hein.
Totalement. Ouais. Bon, voilà,
l'idée était pourtant pas mal. Fausto, je te laisse un dernier mot si tu veux mettre quelque chose en avant avant qu'on te quitte sur la semaine.
C'est vrai qu'on a eu tout un festival de paires françaises cette semaine avec le bracelet, avec les beaux, avec le cool chain, etc. Peut-être un dernier hommage quand même à Sonny Franco qui est pour moi, pense, l'un des Français les plus en forme et qui démontre une nouvelle fois, lui aussi, à quel point il est régulier et toute la longévité qu'il a sur ce jeu, parce que là il fait une série, on n'a jamais vu ça sur des WSOP, il fait 4 day 3 sur ses 4 derniers tournois. Donc en fait, à chaque fois qu'il s'inscrit à un tournoi, il passe une semaine à jouer, il met des jetons dans les sacs tous les jours, et il fait, bon, ça reste un peu frustrant comme résultat, il fait 11e, 10e et 9e sur 3 events, hein, sur le 6 max $3,000, le 6 max $5,000, et là encore, il vient de buller la table finale du PLO d'ICA. Donc ça montre quand même le talent de ce garçon qui, malheureusement, à chaque fois échoue à une marche ou deux de la table finale de WSOP. Je crois qu'il a à peu près fait toutes les tables finales possibles sur le circuit. Et malheureusement, il lui manque encore celle-là. Il l'avait fait à Rose Vadoff, mais pas encore à Vegas. Mais bon, ça reste assez exceptionnel. Il a fait partie de ce trio magique qui nous a fait rêver sur le PLO avec David Benyamin et bien sûr avec Elina Cash. Mais donc voilà.
Non, Sonny, mais tu fais bien de mettre en avant la régularité de Sonny Franco. Ça fait des années qu'il obtient des résultats, qu'il est ITM sur une tonne de tournois. C'est la régularité de ce joueur est véritablement à mettre en avant. Merci beaucoup, Fausto. On te laisse continuer. Puis la semaine prochaine, tu retrouveras les amis Moundir, Jérémy sur place là-bas et vous ferez une magnifique émission. On t'embrasse,
Fausto,
bientôt.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, les gars.
À tout à l'heure, Fausto.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. On marque une petite pause. On revient pour la dernière partie. Oui. Nicolas Dumont est avec nous en studio. Et évidemment, Moundir reste branché depuis Vegas. Michel Legborin dans une poignée de secondes. À tout de suite.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Troisième et dernière partie du RMC Poker Show. Moundir est toujours en direct de Vegas. Il ne dort jamais. C'est vrai que tu n'es pas connu pour avoir un sommeil de plomb, mais là en ce moment tu dors pas du tout. Moundir, qu'est-ce que tu fais?
À la base, c'est l'éducation. Mon père me levait de bonne heure pour aller faire le marché. Donc, si tu veux, je n'ai pas un gros sommeil. Moi, 5 heures, c'est très bien. Je récupère, il n'y a aucun souci.
C'est bien, ça permet de faire des perfs au poker. Continue comme ça, c'est bien.
Et de compter son argent la nuit.
Et ça permet d'aller claquer l'oseille à l'outlet. Et comment va la boutique, au fait, WSOP, tu sais, Greg m'a envoyé un message, il me dit, t'as vidé la moitié de la boutique.
Mais alors ça, c'est un mensonge. Alors,
Greg, arrête, il m'a envoyé les photos, tu prenais les cintres avec.
Je n'ai pas acheté un lacet. Écoute, j'attends que Greg, parce qu'il est vachement pris, je n'y suis pas allé. Mais quand je vais y rentrer, ça va saigner.
Nicolas, tu n'es pas à Vegas. Quand tu entends là un petit peu toute cette actualité, qu'est-ce que ça t'inspire? T'aimerais y être? Pourquoi tu n'y vas pas? J'ai pas mal de questions autour de ça. Allez.
Bah c'est sûr que ça donne envie d'y être, et c'est l'objectif de tous les ans. Tous les ans, c'est mon objectif. Maintenant cette année, ça a été un peu plus compliqué, notamment hors poker. Et voilà, ce qui m'empêche d'y aller. J'ai préféré être raisonnable et passer mon tour pour cette année.
On peut en dire.
Ouais, j'avais une société et je l'ai fermée et ça m'a coûté un peu d'argent le temps de faire les choses.
Parce que
bien.
Tu ne fais pas que jouer au poker.
Non, jusqu'à j'ai fermé ma société, j'ai arrêté l'activité début juin l'année dernière.
C'était quoi ta société?
J'avais une auto-école.
Donc les gens passent plus hors permis, quoi.
Si, mais je voulais plus, ça faisait 7 ans et je trouvais que j'avais fait le tour de la chose. J'ai essayé de trouver un repreneur, ça n'a pas marché, ça m'a fait perdre du temps, de l'argent. Et après le temps de bien faire les choses avec les élèves, de fermer, ça m'a refait perdre du temps et de l'argent. Et voilà, maintenant c'est réglé, c'est derrière moi, mais je dois remonter tout l'argent que j'ai perdu. Ouais.
Et quelle est ton envie maintenant? C'est de te consacrer exclusivement au poker?
Alors mon envie, elle est simple. C'est d'abord d'élever mes enfants qui sont encore jeunes. Et du coup, ça me prend du temps parce que ma femme a un bon travail. Du coup, j'essaye de l'aider au maximum et sur mon temps libre de jouer, de travailler mon jeu, faire du sport.
Ça, t'en as toujours envie.
Ouais.
De bosser ton jeu, d'être performant au poker. On rappelle pour ceux qui nous écoutent quand même, ton vainqueur EPT, c'est pas rien, c'est une énorme performance, c'était à Monaco en 2018. 3 ans plus tard, tu fais 23e du main quand même.
Ouais.
Ça aussi, c'est, on va dire, c'était deux plus grosses performances, celles que on met en avant sur ton CV, il n'y a pas que ça. Mais c'est sûr que le poker a cette particularité quand tu obtiens des résultats à un moment, c'est de se dire comment on attend quand t'as été en haut comme ça, on se dit toujours que ce qu'il y a en dessous c'est moins bien. C'est quoi la vie d'un joueur de poker finalement? C'est comme Sony Franco, c'est d'aligner des résultats, des ITM. Ça peut pas tout le temps d'aller chercher un titre. C'est dur le titre au fond.
C'est très dur et en fait c'est un jeu où quand on est ignorant, on a l'impression que y a rien à faire, c'est la chance et que plus on travaille, plus on se rend compte qu'on est ignorant et plus on a envie d'aller de rechercher de l'information et des connaissances. Et du coup, là, j'en suis. Sauf que moi, je suis à une période où, effectivement, comme je disais une dernière fois, c'est que je peux pas me comparer aux professionnels parce que ma vie fait que je n'ai pas le temps de faire comme eux ils font. J'ai pas le temps de mettre tout en œuvre pour le poker, parce qu'il y a la vie de famille.
Mais t'en aurais envie, à terme, une fois que les enfants vont grandir un peu?
Ouais, moi je suis passionné par ce jeu, donc oui, je veux pas abandonner, je veux continuer à faire ce jeu que j'aime. Mais voilà, il y a des épreuves de toute façon, et on passe par là et on grandit. Mais c'est sûr que quand on a atteint un niveau, c'est très dur de redescendre. C'est ça qui fait mal aussi. C'est d'un moment de redescendre et de se dire c'est ça qui m'a fait du mal aussi cette année, c'est de me dire. Eh ben, j'ai reperdu de l'argent, donc il faut que je redescende pour remonter. Et quand on est arrivé en haut, c'est dur de redescendre.
Mais quand on gagne un EPT, qu'on fait 23e du main, on parle là de 2018-2021, parce que c'est pas si longtemps en arrière, c'est 2023. Tu gagnes un FPO et tu gagnes un DSO.
Et 2023, c'est ma meilleure année.
Voilà. C'est des belles perfs, mais quoi, tu relativises parce que EPT c'est un sommet, parce que main c'est le rêve d'une vie, ou non, ça reste des bons résultats quand même.
Ça reste des très bons résultats, et je pense que les 6 mois en 2023 où je gagne 5 tournois live en 6 mois, c'est presque plus beau que de gagner un tournoi en one shot, quoi. C'est de la régularité et tout.
C'est ça aussi.
Et après, bah, les mauvais résultats s'enchaînent. Et c'est, des fois, tu gagnes en jouant mal. Et des fois, tu perds en jouant bien. Et c'est toujours, c'est ça
comme, la difficulté. Comme dans le sport aussi.
Voilà,
dans
c'est, le foot c'est aussi, cette difficulté c'est de trouver le juste milieu entre est-ce que je joue bien même si je perds, ou est-ce que je m'enflamme pas si je gagne alors que je joue pas très bien.
Et c'est quoi? Ça demande une discipline mentale,
discipline mentale, discipline budgétaire.
Justement, moi, j'ai une question, Nico. C'est au-delà des, bien évidemment, des histoires d'entrepreneuriat qui, je peux comprendre comme des millions de Français aussi subissent, c'est que t'es quand même un joueur exceptionnel, que reconnu et connu. Est-ce que tu étais atteint au niveau du moral et c'est pour ça que tu n'es pas venu, parce que je pense qu'il y a des gens qui t'auraient stacké full stack, tu vois. Est-ce que tu n'étais pas dans les meilleures conditions malgré que tu avais des stackers?
Oui, c'est ça. En fait, bien sûr qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé, mais de par moi-même, je me suis dit que vu ma situation actuelle où ça ne se passe pas très bien, je ne me voyais pas non plus y aller et jouer de l'argent d'autres personnes sans être à 100%, quoi. Donc effectivement, c'est un choix que j'ai fait, et je pense que ça me fera du bien en me disant bah voilà, tu as loupé un an, tu le relouperas pas l'année prochaine, et ça va me permettre de me relancer à fond dans cette démarche. Et c'est vrai que ce qui m'a fait aussi un peu de mal, c'est de le passage pro, je l'ai un peu mal géré, je pense, parce qu'en fait j'ai toujours joué jusqu'à présent à quand j'en avais envie, quoi. Quand je veux, je joue. Et même si c'est un peu hors banquerolle, je le fais parce que c'est du kiff. Mais une fois qu'on fait plus que ça, tu peux plus le faire parce que c'est fini, en fait. Si ça se passe mal,
tu peux être plus rigoureux sur la gestion.
Voilà. Ouais. Alors que quand t'as autre chose à côté, tu t'en fous. En fait, l'argent, il rentre à droite. Tu peux le reperdre à gauche, tu joues vraiment pour le plaisir. Alors que là, j'ai senti une pression financière haute que j'ai pas su gérer au début.
Ah, et qui peut impacter même la qualité de ton jeu.
Voilà. Et ça fait quelques semaines, voire mois, que c'est rentré dans l'ordre et que je recommence à reprendre les choses en main, mais c'est vrai que j'ai eu une période un peu floue comme ça.
Et donc cette reprise en main, on disait bon bah t'es pas à Vegas cette année, un joueur de poker de ton niveau, ça doit être à Vegas. Est-ce que ton objectif c'est maintenant de remettre en ordre ta vie et les aléas de la vie pour entamer, j'en sais rien, 2025, une nouvelle saison qui doit avoir pour point d'orgue Vegas l'année prochaine?
Exactement, je suis déjà concentré là-dessus. Alors ça va se faire étape par étape et j'espère réussir, mais effectivement j'essaye de retravailler déjà mon jeu. Donc j'ai repris un groupe autour de moi, je rejoue online que j'avais un peu délaissé. Donc je joue même le matin, je me lève, j'emmène les petits, je joue, enfin je vais au sport, je joue le soir. Donc j'ai repris un gros rythme et j'attends les résultats maintenant.
On va terminer cette émission, Moundir, avec Michel Legborin, qui est également à Vegas. Et il entre encore dans la catégorie de l'article de Live Poker, le comeback des vieux, je crois que c'était ça le titre de Live Poker. Ça fait plus de 40 ans que tout le monde le connaît, qu'il joue au poker. Michel, salut.
Salut Michel.
Salut, comment allez-vous?
Salut Michel.
Ben nous on va bien et on a suivi cette semaine cette très très belle performance dans l'event 63 dans une variante un petit peu particulière qui veut nous expliquer déjà quel était ce jeu, le Deuce to Seven.
Bah je pense que Michel est le mieux placé.
Allez Michel, raconte-nous un petit peu ça.
Bon, le Deuce to Seven, en fait c'est plus ou moins ce qu'on appelait le nulot à l'époque, il y a quelques années, quand ça se jouait en France. C'est-à-dire, mais il faut tout décaler d'un cran. C'est-à-dire que le meilleur jeu, c'est 7-5-4-3-2. C'est-à-dire le pire jeu possible. Et donc, c'est une variante où il faut surtout pas faire couleur, pas faire quinte, pas avoir d'as, pas avoir de pair. Et donc, le summum, c'est 7-5-4-3-2. Ensuite, c'est 7-6-4-3-2.
Ça, c'est un jeu pour Daniel, je vous le dis,
c'est pour Daniel. J'y pensais, mais tu l'as dit, bravo. Le nulot, ça doit être pour moi.
Ouais, ben je te raconte pas comment je me fais charrier, comme quoi je suis le meilleur des nulots. Enfin bon, ça c'est la charriade classique, quoi.
Michel, il faut quand même rappeler que ça fait plus de 40 ans que tu joues. Tu fais partie de ce qu'on appelle les pionniers du poker en France.
Non, exagère pas. 36, me vieillis pas. Ah non, 40, t'as raison.
Oh, et de toute façon, quand bien même ça fait une sacrée expérience autour des tables de poker, c'est un milieu dans la communauté poker où tout le monde te connaît. J'ai envie de dire que le bracelet, c'est un peu le rêve de ta vie et que là, bah, t'es vraiment passé. Je sais pas comment te le dire pour pas te remuer le couteau dans la plaie.
Ah bah, à portée de main, c'est simple, je l'ai touché, il était juste à ma droite, à 60 centimètres, et donc il était à portée de main, c'est exactement l'expression, juste, je l'ai loupé, parce que je me suis trompé dans un calcul de proba, en finale, je me suis trompé.
Ah, voilà. Tu touches en plus.
J'ai mal calculé.
Tu touches l'erreur du doigt. Tu sais pourquoi tu...
Ah oui. C'est-à-dire que quand il m'a mis tapis, j'ai fait mon calcul de proba, mais j'ai oublié qu'il bloquait deux cartes de mes outs dans sa main à lui. Ce qui fait que ça baissait énormément ma proba et en fait j'avais une proba de 30% pour 39% de gain, c'était pas bon quoi, il fallait fold, mais bon voilà, j'ai pas trouvé le bouton fold.
Michel,
c'est terrible.
Quel a été ton sentiment humainement, comment tu t'es senti?
Ah bah c'est comme quand tu prends un coup de poignard dans le dos, c'est la même. C'est quand tu vois que j'ai ouvert ce dernier roi là, j'ai pris un coup de poignard. C'est un rêve d'une vie qui se brise parce que comme je l'ai dit dans une interview, je vais pas avoir 200 000 occasions d'aller faire un heads up au World Series. Voilà. C'est bon, ensuite j'étais dîner avec Bruno Fitoussi qui m'a dit, tu sais, ça fait trois fois que il a fait trois fois deuxième. Il me dit, bon, c'est une habitude à prendre.
je sais pas si c'est une bonne habitude,
mais bon, ça reste psychique. Ça reste psychologiquement très difficile.
Ouais.
Parce que moi, je suis un amateur. Je veux dire, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour le titre, pour la gloire, pour graver mon nom dans le marbre du poker, tu vois. Et voilà, ben toujours pas.
Hein. Michel, t'as dit une phrase dans une interview pour Poker News et que j'ai beaucoup aimé. Tu as dit, c'est sûr que je serai jamais champion du monde du saut longueur. Mais là, j'avais la possibilité d'être le champion du monde de poker.
En hauteur. La longueur, je me le réserve
en hauteur,
encore.
Voilà.
En hauteur. En longueur, je pourrais peut-être y arriver.
Michel, ça fait tellement longtemps que tu joues que j'ai envie de te dire, tu vas continuer à jouer. Et t'as peur que cette occasion ne s'en représente pas. C'est ça ton angoisse?
Ah ben moi il y a deux, bon, il y a une peur qui est un peu moindre, c'est celle de l'âge. Bon, j'ai 66 ans, je veux dire, je peux encore jouer quelques années, mais mon problème majeur, ce sont les yeux.
Ben oui.
Parce que imaginez-vous bien que par exemple dans cette finale, en finale, je suis resté une heure sans voir mes cartes. Je savais pas ce que je jouais.
C'est pas...
Donc c'était la veille. Oh. On était déjà en finale la veille. Et pendant une heure, je regardais le chronomètre, je me suis dit, bon, Michel, tu jettes tout et tu reviendras demain. Et j'avais 4 millions, j'étais chip leader, donc je pouvais aisément passer. Donc je suis resté une heure à fold.
Mais et Michel, puis à un moment on connaît tes problèmes de vue, mais pourquoi spécifiquement pendant une heure là, t'as eu un problème plus grave à ce moment-là?
Ben, j'en sais rien, moi ouais. Demande à mes yeux, j'en sais strictement rien. Le problème, c'est que j'ai une maladie auto-immune qui fait que j'ai une inflammation qui se réveille à certains moments. Personne ne sait pourquoi. On n'arrive pas à faire le lien de cause à effet. Bon, souvent la fatigue, la fatigue peut jouer. Mais par exemple, je vois toujours moins bien entre 19h et 22h. Il n'y a aucun ophtalmo qui a su me dire pourquoi. Ouais. Et à 22h, ça revient un petit peu après.
Incroyable.
Personne ne comprend.
Ouais. De toute façon, oui, personne ne comprend. Je ne vois pas pourquoi les ophtalmos le comprendraient plus que les autres. À la table, et on connaît tous ce problème-là. Mais je ne savais pas cette spécificité à certains moments de la journée. Là, forcément, c'est encore plus handicapant. Ok, oh, Michel, écoute, je ne sais pas parce que je suis resté... Oui, dis-moi,
bon,
pardon.
Voilà.
Non, on t'écoute, Michel, pardon.
Non, parce que je peux, comme anecdote, quand j'ai joué à un moment donné sans voir, à un moment donné, j'ai mon voisin de droite qui était celui qui a gagné le titre, qui m'a relancé. Et je voyais pas mes cartes, mais je sentais bien que là, comme ça faisait une heure que je passais, il m'énervait. Je l'ai tribette sans voir mes cartes. À la Oberstadt, tu vois, j'ai tribette sans voir mes cartes. Et il a fold à la vitesse de la lumière. Et ça m'a permis de gagner un tour et demi de blinde, quoi. Voilà, c'était tout.
Ça s'appelle l'instinct, ça. Michel, j'ai quand même malgré tout moi envie de te féliciter parce que c'est quand même une deuxième place, c'est un très beau résultat. Je comprends moi ta déception parce que ça, tu joues depuis tellement longtemps que ce bracelet, je sais que c'est très important pour toi. Donc je partage ta tristesse, mais je te félicite quand même.
Merci beaucoup. Bah écoute, vice champion dans la ville du vice, c'est normal.
C'est une belle formule. Merci Michel, à bientôt.
Salut Michel.
Je t'en prie, à bientôt.
Félicitations,
ciao, ciao.
Michel.
Ouais, c'est.
Il y a tout le poker parisien qui est fier de toi.
Belle histoire.
Exactement.
Merci beaucoup Nicolas Dumont d'être venu dans l'RMC Poker Show.
Merci à
Nico.
Merci à vous de m'avoir invité.
Encore une fois le meilleur par rapport à ce que nous avons raconté. Et l'année prochaine que tu sois à Vegas.
Avec plaisir.
Et tu retrouveras certainement le dire parce que lui, il y sera, lui ne rate pas une année. Lui, il y est. Cette année, il va encore péter plus de résultats parce qu'il a commencé avec 14 000 de gains, mais pour lui, c'est rien. Le coffre est un.
15. Arrête de dire que... 14, c'est 15.
Attends, excuse-moi, j'ai la note devant les yeux. Alors attends.
15.
Non, 15. C'est pas 15, c'est 14 et caisse. Et comme je t'ai dit que je prenais tout ce qui dépassait du 14, il te reste 14 net.
D'accord, ok. Ça va.
Bon, allez, dimanche prochain, vous serez sans moi. Je vous souhaite. De bien terminer à Vegas, vous savez à quel point j'aurais aimé être avec vous.
Tellement.
Je vous retrouve à la rentrée et Moundir, je te souhaite encore plein de résultats. Je t'embrasse, à bientôt.
Je t'embrasse. Ciao,
le RMC Poker Show revient pour deux émissions encore. La saison n'est pas terminée. Ce sera en direct de Las Vegas avec Jérémy, avec Moundir. Ciao à tous, bonne semaine. Bye bye.
Durant une heure, RMC met carte sur table.
C'est le RMC Poker Show.